France Culture.
Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlons des saints, du culte des saints musulmans, de l'histoire de cette piété, piété populaire, dévotion en tant que telle, des origines jusqu'à nos jours. La fresque historique est étendue avec le professeur Catherine Mayer-Jaouen. Et j'ai beaucoup de plaisir et de joie à l'accueillir. Alors, chère Catherine Mayer-Jaouen, bonjour.
Bonjour Khaled Bincher, merci.
Merci à vous de nous donner de votre temps et de nous donner de votre savoir. Vous maîtrisez ce sujet du culte des saints en islam. Et j'ai envie de vous poser d'emblée une première question, vous qui êtes professeur d'histoire à la Sorbonne. Et donc vous abordez le sujet comme historienne. Mais peut-être une question d'ordre linguistique et philologique. Qu'est-ce un saint, d'un point de vue purement sémantique, en islam ?
Alors, il y a une double question. D'abord, le saint lui-même, et puis le culte des saints, c'est-à-dire le titre que j'ai donné à mon livre. Il est évident qu'en français, le culte des saints, comme le mot saint, renvoie à la culture chrétienne, qui suppose, pour le catholicisme du moins, à partir du XIIIe siècle, la canonisation. Alors il n'en est déjà pas de même en islam, bien sûr. Ce sont des saints qui sont reconnus comme tels, mais le mot lui-même, au fond, n'existe pas avec cette idée de différence, de différenciation qui renvoie au sacré, qui existerait dans le christianisme, par exemple. Un saint musulman, on a beaucoup de termes pour le désigner, selon les langues, selon les périodes aussi. Le terme, disons, en islamologie, enfin le terme le plus en mystique aussi, dans le soufisme, c'est le mot wali. Hein. Le mot wali, dont la racine même qui renvoie au pouvoir, au lien, à la proximité. Donc le saint, c'est un ami de Dieu. Hein. C'est une définition qui est proche de celle que donne le judaïsme, qui lui aussi a ses saints d'ailleurs. Hein. Alors le wali, en fait, ce terme, donc qui est le terme qu'on trouve beaucoup dans les textes, bien sûr, surtout les textes de réflexion hagiologique à propos des saints, ce terme n'est pas celui qui domine dans l'acception justement populaire, où on va utiliser le mot shir, tout simplement, hein. Shir, un homme pieux aussi, Rajal Saleh.
Shir, en gros, un patriarche, un seigneur.
C'est quelqu'un qui a du poids, de fait, littéralement, aussi bien en termes social qu'en termes de charisme, d'ordre plus religieux, et les deux ne sont pas réellement dissociés, ou assez rarement. Alors on a un shir, donc, ce qui recouvre toutes sortes de réalités. On dit aussi, donc, homme pieux, rajal saleh, yani as-sulaha, c'est le pluriel. Et puis, alors, dans d'autres langues, vous avez les dédés, les babas, en turc. Il faut penser aussi aux imams chiites, hein. Ce sont des figures de saints très vénérés. En fait, aujourd'hui, du point de vue numérique, certainement les plus vénérés, en Iran comme en Irak. Et puis, vous avez, alors là, ça renvoie à l'histoire proprement parlée du culte des saints. Il est évident que en Syrie, Palestine, Liban, le terme dominant, c'est Nabi. Hein. Nabi, c'est-à-dire le prophète. Puisqu'il s'agit là, disons, de le Proche-Orient ancien, dans lequel s'étend l'islam, à partir de la péninsule arabique, eh bien, est une terre de judaïsme, de christianisme. Ça a été une façon pour l'islam de récupérer, si vous voulez, ou d'islamiser, mais de façon généralement très graduelle, ce culte des prophètes. Et parfois, il y a des lieux, en fait, dont on ne sait pas trop s'ils correspondent réellement à un saint réel. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réellement enterré là ? Mais qui sont des lieux naturels, une colline, un arbre même, des lieux naturels, une grotte. Et ces lieux sont rattachés à un prophète, le prophète Élie, le prophète Jonas. Donc des prophètes qui sont reconnus par l'islam comme par les religions vétérotestamentaires.
Alors, je m'étais permis de vous poser la question dans un premier temps pour fixer le champ sémantique, parce que j'ai cru comprendre, je le dis sous votre contrôle, que la sainteté est plutôt parcimonieuse dans l'univers coranique, dans un premier temps, et islamique d'une manière générale. On dit que le saint par excellence est Dieu. Jésus est sel la sainteté, le scellement de la sainteté, c'est avec le Christ. Et il y a une terre qui serait sanctifiée. C'est là où Moïse a dû se déchausser d'une part, où Al-Quds, c'est la sainte par excellence, donc Jérusalem, foulée par le Christ, c'est le lieu à partir duquel le prophète de l'islam entreprendra son ascension céleste. Mais en dehors de ça, les hommes sont des amis de Dieu, comme vous le dites si bien. Et le wali, parfois le maoula, est très amphibologique, parce que c'est le protecteur, mais c'est aussi le protégé ou le client. Donc la langue arabe est très riche et dense là-dessus, très polysémique, mais le concept lui-même, encore une fois, cette parcimonie de la notion, comment, c'est parce que vous n'avez pas trouvé autre chose que vous avez, et vous n'êtes pas la seule, traduit par « saint ».
D'abord, vous avez dans votre propos renvoyé à deux racines finalement. Il y a donc cette racine qui va avec Wali, la Wilaya, la Walaya, donc cette racine de la proximité, en même temps du pouvoir, du patronage, que nous traduisons par saint ou sainteté. Mais en fait, l'autre racine, ce qui donne El-Quds, Jérusalem, et qui suppose là effectivement une coupure, une différenciation nette, c'est la racine qui donne Quddis, saint. Et de fait, les chrétiens arabes parlent de Quddis pour le saint chrétien, qui suppose presque une nature différente dès le départ. Alors que le wali, c'est quelqu'un... Alors, il y a la question qui est posée d'ailleurs dans les traités d'agiologie. Est-ce que le wali sait dès le départ qu'il est saint, ou est-ce qu'il le devient ? Quant à la parcimonie des sources, ben je dirais qu'elle est en dialogue avec la richesse du terrain. La richesse du terrain, c'est-à-dire un culte qui, dès le départ, a existé... même si les traces les plus spectaculaires d'un point de vue architectural et artistique n'apparaissent qu'à partir du IXe siècle, deuxième moitié du IXe siècle. Alors pourquoi est-ce que j'ai employé le culte des saints musulmans ? C'est une question que se posent toujours les arabisants, les islamologues. Est-ce qu'il faudrait ne parler que à partir des termes arabes et en respectant, en les mettant en translittération, les termes arabes, ce qui serait plus juste ? Mais ce qui ne permettrait pas de parler du phénomène.
Oui.
D'abord, ça ne permettrait pas d'être compris du francophone qui ne connaîtrait pas l'arabe. Ça l'éloignerait même de la lecture, alors que je pense, j'ose espérer qu'elle est intéressante aussi pour les gens qui travailleraient sur le culte des saints chrétiens, sur le culte des saints juifs, par exemple. Et puis, ça éloignerait du phénomène, parce qu'il y a le mot saint, mais dans le titre, il y a bien le mot culte, culte des saints. Et là, c'est une réalité éminente qui d'ailleurs ne renvoie pas qu'aux saints musulmans dont nous venons de parler, mais aussi aux prophètes, par exemple. Il y a un culte, il y a une vénération du prophète qui fait même partie, on peut dire, qui est presque l'un des fils rouges de l'histoire de l'islam. Et travailler sur le phénomène, montrer son importance dans l'histoire de l'islam, permet d'expliquer d'ailleurs beaucoup de tensions comme de moments, au contraire, de coalescence, si vous voulez, entre ce que je disais dès le début, entre le politique, le religieux, entre les masses populaires, pour parler dans des termes un peu anachroniques, mais enfin, disons, dans un peuple qui est très massivement rural, évidemment analphabète, islamisé peu à peu, parce que le culte des saints, et je ne suis pas la seule à le penser, je veux dire, c'est même une vision assez classique, le culte des saints est un des facteurs de l'islamisation de beaucoup de régions qui sont aujourd'hui majoritairement musulmanes. L'Inde du Nord, par exemple, c'est très caractéristique.
Parce qu'il y a eu une récupération, une islamisation de survivance, voire d'une pratique qui était déjà là, et le cas le plus... emblématique, c'est le pèlerinage à la Kaaba qui préexistait déjà avant l'avènement de la révélation coranique. Mais là, dans l'expansion, il y a eu donc une islamisation où les choses se sont faites par elles-mêmes.
Alors ça, c'est une question de fond, très difficile, et à laquelle il faut répondre, disons, prudemment, région par région, je dirais. L'intérêt, par exemple, de régions comme les Balkans ou l'Inde ou l'Indonésie, c'est que comme l'islamisation s'est faite beaucoup plus tard, nous avons davantage de traces, y compris de traces des lieux eux-mêmes, de ce qui a préexisté, de ce qui a été repris et métamorphosé ou transformé. Parce que comme dans le culte autour de la Kaaba, pour le pèlerinage à la Mecque, même s'il y a récupération de traits, alors éventuellement païens, mais enfin en l'occurrence plutôt chrétiens, juifs, bouddhistes, zoroastriens en Iran, même quand il y a récupération, en fait on donne un sens musulman, et c'est ça qui est important, on donne un sens musulman à ces traces ou à cette reprise de lieux plus anciens. Parfois même de personnages plus anciens. Je citais le prophète Élie, qui est commun en fait finalement avec des aspects peut-être un peu différents aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans. Alors cette récupération, ce sens musulman qui est donné, ça je crois que c'est très important parce que ça se fait graduellement dans l'ensemble. Hein, c'est-à-dire que on peut trouver certainement des cas d'islamisation brutale, mais dans l'ensemble ça n'est pas le cas. Il faut penser par exemple à Damas et à Alep, où il y a le culte de la tête, n'est-ce pas, de Saint-Jean-Baptiste. Oui. Il s'agissait d'une cathédrale, elle-même édifiée sur un temple d'époque gréco-romaine. Eh bien, après la cathédrale, et avec l'aide d'artistes byzantins d'ailleurs, a été édifiée la grande mosquée des Omeyyades. Même chose à Alep pour Zacharie, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste. Là, typiquement, on a un culte qui, finalement, évolue de façon très graduelle, progressive, dans une société, et ça c'est important à préciser, qui reste longtemps majoritairement chrétienne, par exemple, surtout à la campagne.
Et qu'en est-il du culte marial à Éphèse, par exemple ?
Alors, le culte marial, déjà en général, évidemment, très important, puisque je ne vous apprends rien en vous disant que la Vierge Marie est une figure très importante en islam.
Et omniprésente aussi.
Omniprésente, et puis permettant de justifier aussi le culte d'autres saintes femmes. Peut-être que nous en reparlerons. Alors, dans le cas d'Éphèse en particulier, lieu évidemment antique, hein, n'est-ce pas ? On a les traces de l'action de saint Paul à Éphèse. Et puis, ce lieu marial à la fois est ancien, mais a été ensuite repris d'une part par mission catholique, qui d'ailleurs l'anime jusqu'à aujourd'hui, et d'autre part, c'est important, par la République turque. C'est-à-dire que la République turque, qui est quand même en réalité très laïque, à beaucoup d'égards, et ne favorise pas tellement la présence des chrétiens sur son sol, mais en tout cas, dans le cas d'Éphèse, a voulu montrer qu'elle participe pleinement à cet héritage, et puis dans une sorte de fierté nationale aussi. Hein. Il y a l'idée que voilà, la Vierge Marie était ici et que nous respectons ce culte.
Et qu'en est-il du saint cette fois-ci, de son profil, de sa... alors vous avez dit tout à fait au début, a-t-il conscience de sa sainteté ou c'est un élément acquis dans sa trajectoire de vie? Pourrions-nous avoir une sorte de morphotype, si je puis dire, de sainteté?
Disons que dans les hagiographies, qui sont quand même notre source principale sur la typologie des saints, nous avons de fait plusieurs types de saints. Et selon l'hagiographe, donc la personne qui écrit la vie du saint, on va mettre l'accent, ou bien par exemple uniquement sur la vie et les qualités propres du saint, qualités spirituelles, morales, religieuses, sa progression dans la voie initiatique, puisque ces hagiographies à partir du XIIe siècle sont très massivement des hagiographies soufis. Et puis alors vous allez avoir des hagiographies qui racontent des récits de miracles dans la vie du saint, durant la vie du saint, qui sont parfois, et même souvent d'ailleurs, des miracles d'ordre spirituel en fait, hein, de conversion par exemple, de retour à Dieu, de repentir. Et puis vous allez avoir des hagiographies, alors là tout à fait échevelées si vous voulez, insistant sur le merveilleux, sur les prodiges et sur les miracles après la mort du saint, puisque la mort du saint n'est pas une rupture, hein, le saint reste présent, reste vivant. Ça c'est un élément fondamental, je pense, dans le culte des saints, comme d'ailleurs dans le culte du prophète finalement, c'est cette idée que, quelle que soit la tombe ou le tombeau, qui d'ailleurs souvent ne correspond pas à la présence d'un corps au sens strict, vous voyez, d'un squelette, je dirais, mais le tombeau est signe d'une présence, voilà, d'une présence dans notre monde, qui échappe à l'histoire, justement, qui échappe au temps, Et c'est cette mise en présence du saint qui crée une rencontre, en fait, entre le dévot qui va au mausolée, par exemple, et puis le saint en question. Alors, pour revenir sur les morphotypes, pour donner un exemple de type de saint différent, vous avez par exemple en Indonésie, parce que ça correspond à une tradition locale, la plupart des saints sont des rois, en fait, hein, sont des rois. Alors, converti et s'abstenant désormais de tout pouvoir, ou bien au contraire, exerçant en tant que roi. Le phénomène s'est produit aussi en Asie centrale, entre le XVIIe et le XIXe siècle, une dynastie de saints, si vous voulez. Et vous allez avoir, alors, à l'opposé, on pourrait dire, le saint qui a fleuri au moment, au fond, de la peste noire, de la conquête mongole aussi, des invasions mongoles, qui est le personnage du Majdoub, hein, Majdoub, en Afrique du Nord.
Ravi à lui-même.
Ravi à lui-même. Alors, le possédé, hein, c'est un type de saint qui existe dans le christianisme, notamment orthodoxe, le fol en Dieu. Ravi à lui-même parce que arraché auprès de Dieu et devenu étrange, voire transgressif dans beaucoup de ses aspects. Je crois qu'il y a quelque temps, vous aviez invité Alexandre Papas qui vous a parlé.
Des Malamati, notamment.
Voilà, des Malamati, des Calendars. Donc, c'est un profil qui apparaît et se développe dans les moments de crise, en fait.
Alors, pour nos amis auditeurs, les Malamati sont ceux qui s'attirent le blâme délibérément pour atrophier leur ego et transgresser les usages connus. Pour eux, c'est une manière de peut-être de s'élever par cette transgression.
Il y a ceux qui transgressent et il y a des Malamati. Ça, Michel Chodkiewicz, qui était vraiment des grands spécialistes de la géographie musulmane à travers Ibn Arabi, bien sûr, insistait sur le fait que même la sainteté ultime, c'est le Malamati totalement caché. C'est-à-dire qui ne manifeste pas par des miracles sa sainteté. Qui se contente d'une stricte observance des rites et prescrits et qui éventuellement mourra peut-être dans l'inconnu.
Dans l'anonymat.
Mais parfois, il peut y avoir, alors là aussi les hagiographies sont pleines de ce type de récits, des visions apparues à des dévots où le saint apparaît par la suite et le culte se forge après la mort du saint, c'est-à-dire qu'on découvre après coup que tel personnage était en fait un grand saint.
Conformément à cet aphorisme qui dit que le véritable saint de Dieu est celui qui se promène incognito dans les souks et les marchés.
Oui, tout à fait. Et ce qui renvoie à cette idée de présence que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la sainteté est présente, les saints sont présents. Et le fidèle ne les voit pas forcément, ne les comprend pas forcément. Et ces récits de conversion dont je parlais, alors il existe des récits de conversion d'une religion à l'autre, mais majoritairement dans les hagiographies, il s'agit plutôt d'une sorte de conversion intérieure où le croyant bafoue, si vous voulez, la sainteté du saint, ou bien est incrédule, et puis finalement, alors soit un miracle assez radical, soit en fait une conversion, vraiment un cheminement intérieur, spirituel, lui permet de comprendre qu'en fait le cher qu'il méprisait ou qu'il jugeait négligeable, le guide en réalité, enfin, que Dieu le guide à travers ce saint plutôt.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons des saints musulmans, de leur culte avec Catherine Mayer-Jaouen et qui est professeure d'histoire à la Sorbonne. Et pour cette deuxième partie, je voulais vous dire, chère Catherine Mayer-Jaouen, comment se fait-il que les oulémas, notamment et surtout des jurisconsultes rationalistes, parfois adoube ou accompagne ou voit d'un bon œil ces notions de miracle, alors que il n'y a pas beaucoup de miracles en principe dans la, il n'y a pas de thaumaturgie dans la tradition religieuse islamique. Et sont-ils des oulémas organiques, comme on aurait dit maintenant, et qui, avec le pouvoir en place, parce que certaines dynasties voient d'un bon œil ce culte des saints, ça permet aussi à la dévotion populaire d'être canalisée. Comment ça s'est-il fait à travers l'histoire avec des théologiens qui finalement étaient tatillons sur l'aspect un peu rationnel, ou du moins le moins coûteux, on donnait irrationnel pour parler du divin, et qui s'accommodent avec le culte des saints.
Ils s'en accommodent parce qu'ils y croient. Hein. Fondamentalement, ils y croient extrêmement majoritairement. Ça ne veut pas dire que la question n'ait jamais été débattue, mais il faut bien voir que le culte des saints, étant extrêmement protéiforme et varié, donne aussi des gages aux oulémas, si je puis dire, hein, et à la science religieuse. D'abord, pour commencer, même dans les débuts des cultes des saints musulmans, donc il y a plusieurs aspects, des fonctions parfois de djihad, des saints des frontières, donc ce sont des saints qui défendent aussi l'islam, hein, ou qui aident à la conversion, donc on trouve des justifications.
Ceux qui sont dans les fortins, dans les ribats.
Ceux qui font dans les ribats, alors voilà, qui est le mot, enfin, qui existe aussi au Proche-Orient, et puis bien sûr, qui s'est beaucoup développé au Maghreb.
Qui, pour nos amis auditeurs, a donné Rabat à la capitale du royaume du Maroc.
Voilà, et aussi le mot, alors employé en français de façon péjorative, mais le mot marabout. Oui. Hein, marabout, maraboutisme. Mais ce n'est pas exactement cela dont il s'agit. Il s'agit vraiment d'abord soit de ces combattants pour l'islam, donc auxquels les oulémas ne pouvaient que donner, si je puis dire, leur bénédiction. Ensuite, dès le début du culte des saints, dès le début de l'islam, outre ses origines dans un paysage, disons, judéo-chrétien globalement que j'ai décrite, il y a aussi très tôt hein, le culte d'ascètes proprement musulmans, de savants musulmans, hein, les fondateurs de rites juridiques, l'imam Shafiri, Abu Hanifa à Bagdad, l'imam Shafiri au Caire, sont vénérés jusqu'à aujourd'hui. Et de façon très importante, et il faut le dire aussi, dans le cas de Abu Hanifa, bon, c'est un culte sunnite, mais pas uniquement, hein, c'est un peu tous les musulmans qui s'associent. Donc d'abord, il y a des figures d'oulémas qui deviennent des saints, et cette proportion s'accroît au fur et à mesure de l'islam. C'est-à-dire qu'un saint musulman, donc un wali, c'est quelqu'un qui de toute façon a une science religieuse, une science de Dieu. Alors est-ce qu'elle est innée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a des saints analphabètes, et puis Dieu les infuse, si vous voulez, d'une science, ça fait partie des miracles, justement, qui montrent qu'ils comprennent parfaitement le Coran et sont capables de le commenter, par exemple. Ou bien est-ce que ce sont des saints, des oulémas, qui effectivement ont parcouru des étapes dans le domaine du savoir, ont acquis la science religieuse, mais une science religieuse éclairée par cette relation à Dieu. C'est ça, en fait, le point central, c'est que quelle est la vision de la science religieuse ? Il faut sortir de la vision que nous avons aujourd'hui, qui est une vision rationaliste, où on mettrait les choses à distance systématiquement. Et là, en réalité, il s'agit d'une imprégnation très profonde qui fait que la sainteté reconnaît la science et que la science, si je puis dire, reconnaît la sainteté. Donc le rôle des soufis aussi, à partir des 12e, 13e siècles, a été décisif. C'est-à-dire que là, vraiment, on peut le dire sans crainte de se tromper, du 12e siècle ou 13e siècle, si vous voulez, jusqu'aux premières décennies du 20e siècle, en fait, les oulémas étaient des soufis. Voilà. Étaient des soufis ou adhéraient d'une façon ou d'une autre au soufisme. C'est-à-dire qu'il y a toute une culture aussi qui baigne le culte des saints et qui justifie ces rapports entre des dévotions populaires qui peuvent parfois choquer, et puis les oulémas ou des savants plus ascétiques ou plus distants. Donc cette culture passe beaucoup à travers la poésie. La poésie, le chant, la musique.
Et parfois ils commencent leur magistère avec des réticences quant à ces questions inhérentes au soufisme, et ils finissent par être des soufis convaincus. Le cas le plus emblématique est celui de Al-Ghazali, mort en 1111, et qui, au début, agissait en philosophe, et il finit en mystique.
Oui, Razali, bon, ouais. Écrit d'ailleurs, même si l'ouvrage est... Parfois, on hésite un peu sur son attribution, mais enfin, en tout cas, on lui prête, et c'est déjà quelque chose, un ouvrage décrivant cette conversion radicale au terme d'une crise mystique. Oui, c'est assez, de fait, c'est assez fréquent.
Alors, qu'en est-il des saints patrons, si j'utilise le langage chrétien, des grandes villes ou des métropoles, Sidi, c'est Monseigneur, Sidi Mahrez pour Tunis, Sidi Abdelrahman pour Alger, Attentat, une ville que vous connaissez bien et dont le saint est objet de vénération particulière et de pèlerinage, c'est aussi inhérent à la vie ordinaire des fidèles et des musulmans pour aller célébrer d'une manière cyclique ces saints patrons.
Alors oui, alors effectivement, ces saints patrons de ville ou même de région, leur histoire renvoie encore une fois à celle de l'islamisation de territoire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une ville qui devient majoritairement ou même uniquement musulmane ? Comment est-ce qu'elle va le proclamer ou l'affirmer ? Alors bien sûr, il va y avoir le rôle du qadi, hein, le juge, c'est extrêmement important, le droit, le fiqh, mais il y a aussi une sorte de forme d'identité locale, régionale, voire nationale, puisque nous avons aujourd'hui même des saints nationaux, on pourrait dire, qui joue un rôle très important dans des périodes de toute façon très troublées, où il y a à la fois un attachement au lieu très très fort, et en même temps des migrations, des exodes, les guerres et ainsi de suite, qui renforcent peut-être d'ailleurs cet attachement au lieu primitif, au lieu d'origine. Alors effectivement, vous avez fait allusion à Saïd el-Badawi, sur lequel j'avais fait ma thèse, hein, à Tanta, qui est le grand saint égyptien, le grand saint du Delta, qui est resté très longtemps, même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un nom très très connu. Et cette fonction de patronage va très loin. Par exemple, on a des exemples de soldats qui, partant pour le djihad, passent d'abord, effectivement, par exemple, c'est Sidi Mehrez, ou alors à Tunis, ou même des gens partant en voyage ou allant à la Mecque en pèlerinage, évidemment un pèlerinage très dangereux, passent d'abord chez le saint patron, qui est vu comme la porte, si vous voulez, du prophète. Hein.
Et on a voir des bénédictions qui les aident comme un viatique pour leur voyage.
Alors, un viatique pour deux raisons. D'abord très concrètes. Parfois, on prenait, et ça c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui, mais la poussière du mausolée, on l'emportait avec soi sur le bateau pour éviter que le bateau ne fasse naufrage. Et puis, de façon évidemment plus spirituelle peut-être, le saint patron est un intercesseur, hein, parce qu'il faut bien voir qu'il y a au fond une chaîne d'intercession. L'adhésion à l'intercession est au cœur du culte des saints, c'est-à-dire intercéder. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? C'est prier ou aider quelqu'un à parvenir à Dieu, mais à travers une sorte d'échelle d'intercesseur. Donc le saint patron va vous amener au prophète, qui lui-même intercédera pour vous dans ce monde et dans l'autre.
Là, je ne m'empêche pas de vous poser une question d'ordre théologique. Chez les théologiens musulmans, le seul intercesseur est le prophète et... y aurait-il des intercesseurs auxiliaires, en quelque sorte, ou adjoints ?
Alors, c'est tout à fait l'idée qui est souvent... Et souvent, il y a une comparaison explicite qui est faite avec l'idée que, après tout, on ne peut pas accéder directement au sultan ou au sultan calife. Alors, on est obligé de passer par ses vizirs, etc. Et il en est de même pour Dieu, le prophète, et les saints qui sont comme les vizirs, si vous voulez, du prophète qui lui-même ensuite répercute les demandes d'intercession auprès de Dieu. C'est un peu la façon dont la chose est justifiée, parce que cette question de l'intercession, c'est effectivement une question qui a été très débattue, toujours très débattue. Comment est-ce qu'elle se passe ? Quels en sont les moyens ? Qu'est-ce qu'on peut demander ? Ou ne pas demander d'ailleurs, c'est-à-dire est-ce qu'il faut accepter, de toute façon il faut accepter la volonté divine, mais est-ce qu'elle peut s'exercer par les saints, et est-ce qu'eux-mêmes ne constituent pas une sorte de diwan es-salihin, c'est-à-dire un conseil des saints qui se réunissent pour débattre des affaires justement du monde, et ce sont eux qui auraient en fait aux yeux des dévots le vrai pouvoir dans ce monde.
Et on peut aller pleurer ses péchés, venir à résipiscence après, en ayant confessé tel ou tel méfait dont on espère l'absolution.
Alors, dont on espère l'absolution, là aussi, subconditionnée. Hein, il faut des conditions, mais ce sont des choses qu'on trouve effectivement dans la géographie.
Cette intervention est préparatoire à une question qui est ce fameux article de Goldésière en 1880, où il mettait en exergue les différences entre les saints musulmans et les saints chrétiens. Et d'une manière paradoxale, soulignez-vous vous-même dans votre ouvrage le fait qu'il parle de cela tout en mettant ou en alertant à une sorte de disparition, une dissolution, une dilution de ce culte des saints.
Merci de parler de cet article, parce que de fait, c'est un article très célèbre qui fait 100 pages. Hein. C'est un véritable petit ouvrage qui a d'ailleurs été réédité comme tel par Rémy Brague il y a quelques années. Cet article d'Ignace Goldsier est paru dans le premier tome de la Revue d'Histoire des Religions, donc en 1880, donc correspond à la façon dont on voyait les religions en général, n'importe quelle religion, à l'époque. Eh bien, comme des survivances destinées à disparaître dans un monde dominé par la science. Goldsier lui-même, par ailleurs, était un juif pieux, et il l'est resté toute sa vie. Il a d'ailleurs travaillé comme secrétaire, en fait, de la communauté juive de Budapest. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie, le pauvre. Et Goldsier, justement, refusait le judaïsme de la piété populaire, si vous voulez, du shtetl, du ghetto, qui lui aussi gravitait autour de rabbins miraculeux. Alors, il était totalement hostile à cela, et trouvait un écho favorable dans la pensée, au fond, des premiers réformistes musulmans. Et des wahhabites, hein, on va en parler tout à l'heure, je pense, mais Goldsier a étudié à El Azhar pendant 2 ans, hein, il faut le savoir, c'est une autre époque, évidemment, et il en a retiré l'idée que le culte des saints allait disparaître parce que c'était un phénomène surtout rural, bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait, hein, on vient de le dire tout à l'heure, il y a des saints patrons des villes, c'était un phénomène surtout rural qui allait disparaître grâce au triomphe, justement, de la science, et puis au fond de ce qu'on appellerait, nous, la modernité. Cela dit, l'article de Goldsier reste très utile, je l'ai beaucoup discuté, j'ai même écrit tout un article moi-même à propos de cet article, mais parce qu'il met en valeur l'absence d'image, hein, l'absence d'image dans le culte des saints musulmans, et l'absence, ça c'est très important, de reliques directes. Alors reliques directes dans le vocabulaire technique, si vous voulez, ce sont les ossements littéralement. Dans le culte des saints chrétiens, vous avez des reliquaires, bon, on peut voir ça partout, et puis aussi au musée du Moyen-Âge, bon, des reliquaires qui abritent le tibia de tel saint, le crâne de tel autre, etc. Alors, dans l'ensemble, ça n'existe pas en islam. Il n'y a que des reliques indirectes, c'est-à-dire des choses qui ont été en contact avec le saint, mais le corps du saint lui-même n'apparaît pas.
Une part d'un burnous, d'une robe rapiécée, d'un froc rapiécé, comme on dit, des choses comme ça.
C'est ça.
Sinon, il n'y a pas de...
Un turban. Oui. Sinon, il n'y a pas de reliques directes, et de toute façon, il n'y a pas, jamais d'accès direct à un corps, si vous voulez. Pourquoi ? Ben parce que le saint, encore une fois, est au fond toujours présent, toujours vivant, mobile d'ailleurs. Hein. Et c'est ce qui explique que, dans les récits de miracles, des hagiographies, il continue à faire des prodiges très loin de son tombeau. Il faut aller à son tombeau pour avoir l'intercession, mais finalement le saint intervient là où il veut.
Par cette réponse, vous anticipez sur une question que j'allais laisser à la fin. C'est l'imagerie ou l'iconographie désormais de nos jours, de certains saints considérés comme tels. Maintenant, avec la photographie, on peut avoir des cadres qui les illustrent et on vient sur le lieu ou le mausolée ou le tombeau d'un saint, parfois en voyant les, et peut-être en priant en face de cette photographie.
Alors ça, c'est un point délicat et qui diffère selon les cultures de l'islam, en fait. Dans l'ensemble, la culture arabe, effectivement, est vraiment aniconique. Elle est devenue tôt à refuser les images donc de représentation du saint. Nous n'avons pas de représentation des saints du XIIIe siècle et du XVe siècle. Encore qu'aujourd'hui, si vous tapez sur Google le nom d'un saint du XIIe siècle, vous allez voir apparaître une image surgie de l'imagination.
On dit c'est un tel qui l'imaginait ou qui
voilà.
Le concevait ou percevait comme ça.
Ou qui a une vision qu'il a ensuite, oui. Dont il a ensuite tiré une image. Alors ça, c'est pour la culture arabe. Mais en revanche, dans la culture persane, dans le fond, il y a les miniatures persanes, hein, qui sont évidemment représentent des êtres humains, représentent des personnages de soufis, de dévots, de calendars, justement, parfois nommés, parfois non, les prophètes eux-mêmes. Et cet art de la miniature persane s'est étendu à la Turquie ottomane.
Et aux Mogols aussi.
Et à l'Inde mongole, absolument. Avec sans frein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on représente les prophètes. Alors, dans certaines scènes privilégiées, c'est d'ailleurs, ça fait partie de la propagande ottomane contre les Safavides, iraniens, hein, chiites, et réciproquement. Et chacun mobilise, si vous voulez, les figures de saints ou de prophètes qui l'arrangent. Bon. Alors, ensuite, à une période plus récente, il y a eu une imagerie pieuse produite à Alep et au Caire, fin 19e siècle, mais un peu sous influence de fête européenne, hein, c'est-à-dire où on voit Abdelkader el-Gilani, le grand saint de Bagdad, Ahmed el-Efari, qui est aussi enterré en Irak, donc des grands fondateurs de confréries soufis. Ça a duré quelques décennies, disons, il y en a encore des traces dans les années 70 peut-être, et puis tout cela a été remplacé, comme vous le dites très justement, par la photographie. Alors photographie à la fois, et je pense que ça va ensemble, du lieu, c'est-à-dire que quand ce sont des saints du passé dont on n'a pas d'image, la photographie du mausolée, et de même qu'il y a des photographies de la Kaaba en fleurie partout, est à elle seule le lieu et l'image du saint aussi. Et puis alors des photographies des saints en tant que personnes, il s'agit des saints contemporains, donc des chers, hein, comme je disais, sont systématiquement des oulémas, ils sont même souvent docteurs aussi, ils ont un doctorat patenté. Et ces saints, comme ces saintes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de saintes femmes aujourd'hui qu'il n'y en a eu dans le passé, nous avons leurs images, qui sont souvent au mur des mausolées, réduites à des petites photographies d'identité qu'on glisse dans son portefeuille, hein, c'est un peu baraka. Ouais. Il y a même des porte-clés à l'effigie des saints en Égypte.
Parfois des talismans et avec leurs photos ou quelque chose qui... C'est peut-être pas tout à fait photo, mais un dessin.
Oui, un dessin, parce que le dessin est peut-être plus suggestif qu'une photo, et puis renvoie encore une fois, en principe, à une vision qu'aurait eu tel dévot du saint.
Alors, en vous écoutant, il y a une phrase en arabe que je vais dire et traduire aussitôt, qui dit, elle est terrible et sévère, « Kam min qubbatin tuzar wa sahibuha finnar » qu'on pourrait traduire par « combien de mausolées et le lieu de visite, alors que celui qui gît est plutôt en enfer
». Tout à fait en enfer. Oui, de même qu'il y a dans toutes les langues, je pense, en dialecte égyptien, on dit « tartel obba erd ». Il y a un singe sous la coupole. Il y a aussi un film récemment au Maroc où en fait un... très intéressant parce qu'il suggère de l'imaginaire où un voleur enterre un trésor sous une butte et alors petit à petit les gens vénèrent cette butte parce qu'ils pensent que là certainement gît un saint caché. Alors ces proverbes et ces phrases montrent qu'il y a toujours une lucidité sur le fait de la possible escroquerie d'abord, hein, qui est dénoncée régulièrement dans les hagiographies comme dans des chroniques historiques. Par exemple, on dit un tel a ameuté la foule en faisant des prodiges, mais on a mis bon ordre à tout cela, etc. Et une lucidité qui ne veut pas dire rejet général, mais différenciation et souci aussi de spécifier quel est le saint qu'on vénère, au moins de lui donner un nom, ne pas laisser un anonymat qui pourtant est assez massif hein, à la campagne, mais ne pas laisser l'anonymat prospérer et forger, quoi qu'il arrive, une légende. C'est-à-dire dire pourquoi on vénère cet endroit, pourquoi on vénère ce saint. C'est assez fondamental, enfin, cette dichotomie, si vous voulez, entre une attitude prudente, non pas incrédule, mais prudente, et puis finalement la recherche de justification, aujourd'hui très présente. D'ailleurs, la photographie fait partie des justifications. C'est-à-dire on a la photo, donc c'est qu'il existe.
Thank you. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du culte des saints musulmans avec Catherine Mayer-Jaouen qui est professeure d'histoire à la Sorbonne. Et pour cette dernière partie, si vous voulez bien, Catherine Mayer-Jaouen, il y a deux aspects. Le premier, parlons des saintes. J'ai en mémoire l'ouvrage « Le mémorial des saintes » d'un auteur persan, Naubart. Et donc, il a fait une galerie d'une centaine de saintes. Si vous pouviez nous parler de l'une ou de l'autre, la plus connue ou la plus emblématique est Rabia al-Adawiya, par exemple, ou d'autres saintes. Et puis, nous verrons plus tard la réaction du salafo-wahhabisme ou des wahhabites et des salafistes dans leur réticence, voire hostilité à ce culte des saints.
Il y a beaucoup de saintes femmes, mais peu de femmes saintes. C'est-à-dire que on voit bien dans les mausolées, y compris quand on les visite aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, de saintes femmes, donc c'est-à-dire de femmes qui renoncent au monde, vivent dans le mausolée très souvent, sont habillées entièrement en blanc ou entièrement en vert, se consacrent entièrement à la dévotion, à des exercices ascétiques aussi. Et que les gens reconnaissent comme des saintes femmes. Elles ne sont pas coupées, d'ailleurs, de la société qui les entoure. Alors, ces saintes femmes, en revanche, sont rarement, entre guillemets, canonisées, c'est-à-dire passent rarement à un culte, font rarement l'objet d'un culte organisé, pour des raisons qui sont liées plutôt à ce qu'est la société dans son ensemble, à ce qu'est le pouvoir politique aussi, parce que c'est lui qui contribue à créer les grands mausolées. Mais nous avons quand même, effectivement, d'abord des cas dans la géographie. Il y a déjà des géographes plus ou moins sensibles à la question féminine, je dirais. Des modèles. Alors, vous venez de citer Rabia al-Adawiya, dont Michel Chodkiewicz avait montré d'ailleurs qu'elle répondait tout à fait à un modèle de mystique qu'on trouvait également dans le christianisme. Éprise de Dieu, c'est effectivement la question de l'amour là qui devient tout à fait cruciale.
Avec son fameux poème des deux amours, où elle s'adresse à Dieu disant « Je t'aime de deux amours, un amour visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi. Quant à l'amour de la passion, c'est que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi. Et quant à l'amour vraiment digne de toi, c'est que tes voiles tombent et que je te vois. » Ni en l'un ni en l'autre, nulle gloire pour moi, mais louange à toi et pour celui-ci et pour celui-là. Donc, ça, fin de citation, et c'est un poème connu d'elle et qui la consacre, mais pas uniquement pour ça, bien entendu.
D'abord, merci pour le très beau poème et pour sa récitation superbe. Le personnage de Rabia al-Adawi a d'autres personnages un peu similaires comme... Saïda Manoubia, par exemple, à Tunis.
Et Saïda Zineb.
Et Saïda Zineb, dont je vais parler. Alors, encore un peu un autre type. Saïda Manoubia, qui était très, très bien étudiée par Nelly Amri, dans un très bel ouvrage. Elle a publié aussi une des hagiographies de Saïda Manoubia. Là, il y a un type très courant, qui est la sainte qui refuse les rôles sociaux habituels de la femme. C'est-à-dire que elle devait se marier, mais soit le mari est foudroyé, il disparaît, donc elle ne se marie pas. Elle reste vierge, se consacre entièrement... alors, dans son cas, c'est quand même une sainte qui fait peur. Elle, chez elle aussi, il y a de la transgression. Elle est ravie en Dieu. Et elle laisse donc une trace extrêmement forte avec un culte pratiqué, il faut le dire aussi, par les femmes comme par les hommes. C'est pas un culte... Le culte des femmes n'est pas réservé aux femmes. Donc là, c'est un personnage assez typique de la fin du Moyen-Âge, je dirais, dans le monde musulman. Et puis alors, Saïda Zainab, et en général, toutes ces saintes, très nombreuses, enterrées au Caire, sont des descendantes du prophète. Là, on entre dans un autre aspect de la sainteté musulmane, c'est le lien avec le prophète, et qui devient souvent, à partir là aussi du XVe siècle, disons, un lien généalogique. Un saint, c'est quand même quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, descend du prophète. Et alors ces saintes sont certaines, Saïda Zainab par exemple au Caire qui est très très connue, son mausolée vient d'être refait tout récemment, n'a pas une historicité extrêmement avérée. Mais en revanche, il y a d'autres lieux de culte au Caire, également à Damas d'ailleurs, de ces saintes femmes de la maison du prophète pour lesquelles on a des traces vraiment historiques comme Saïda Nafisa,
qui était... Saïda, qui précède leur nom, c'est l'équivalent quasiment de madame.
Oui, c'est notre seigneuresse, en quelque sorte. Alors, c'est vrai qu'il y a un culte, ça a été étudié aussi. Ça permet de développer des demandes spécifiques aux femmes qui, quand même, sont aussi au soubassement du culte des saints musulmans, hein, c'est-à-dire fertilité, survie des enfants dans des mondes de mortalité infantile extraordinairement forte. Ça, je pense que c'est vraiment une des explications aussi de ces dévotions très massives.
Bien. Et alors, qu'en est-il cette fois-ci de la réaction virulente du wahhabisme et du salafisme après, avec l'arasement des mausolées, des tombes, considérant que le culte des saints est une altération de l'unicité divine et ça frise, si ce n'est totalement, une forme de mécréance ou d'associationnisme au culte dédié au seul Dieu.
Alors là, c'est une vaste question qui renvoie à un rejet du culte des saints ou un rejet de certaines formes du culte des saints qui a certainement toujours existé. Les premières traces qu'on en a de façon vraiment tangible, ce sont bien sûr les écrits de Ahmed ibn Taymiyyah, qui était pourtant lui-même soufi, mais qui a écrit de façon très virulente contre, non pas d'ailleurs contre l'intercession en général, ni même contre la visite des tombes, mais contre le fait de demander aux saints quelque chose qu'on doit demander à Dieu et de ne pas respecter l'unicité divine. Alors c'est à partir de ces écrits d'Ibn Taymiyyah qui, bon, à l'époque ont été lus mais n'ont pas eu du tout d'influence sur le culte des saints, c'est à partir de ces écrits que l'on voit surgir, déjà au XVIIe siècle, au cœur de l'Empire ottoman, et puis alors surtout au XVIIIe siècle avec les wahhabites, qu'on voit surgir un rejet plus radical, c'est-à-dire les morts sont morts, les saints, d'abord il n'y a pas de saints déjà pour commencer, et ensuite cette question de la vie et de la mort est assez centrale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense du sort de l'être humain après la mort ? Est-ce qu'il y a une résurrection ? Est-ce qu'il y a une résurrection déjà, une sorte de première résurrection, si vous voulez, après la mort ? Et si ça n'est pas le cas, dans ce cas-là, comment peut-on demander à quelqu'un qui est défunt et dont l'action est passée, y compris le prophète, hein, comment est-ce qu'on peut lui demander quoi que ce soit ? Alors, ces critiques ont été formulées déjà par les Kadis Adeli, qui étaient des opposants au cœur de la Turquie, de l'Anatolie, des opposants donc au soufisme majoritaire ottoman, même s'ils étaient eux-mêmes d'origine soufie. Ensuite, les wahhabites du XVIIIe siècle, là, c'est bien sûr un rejet radical, correspondant au rejet des lieux, hein, c'est important. Donc les arbres sacrés, des mausolées. Il y a une discussion pour savoir si lors d'une première conquête wahhabite de la Mecque et Médine, est-ce qu'on a rasé le tombeau du prophète ou pas ? Est-ce qu'on a y apporté atteinte ? C'est assez probable, mais bien sûr, les écrits ne donnent pas tout à fait le même son de cloche. Et d'ailleurs, les wahhabites, quand ils ont définitivement pris avec les Saoudiens, avec la constitution de l'Arabie Saoudite, quand ils ont définitivement conquis la Mecque et Médine en 1925, de fait, ont respecté le tombeau du prophète, tout en jugulant les vénérations. Et alors le salafisme actuel, qui bien sûr s'inspire du wahhabisme, qui est quand même en partie différent, retrouve curieusement ce ton de Goltzieher en fait, c'est-à-dire ce ton scientiste, moderniste, rationaliste, qui est le refus du mystique, le refus de l'ésotérique, le refus du fait qu'il existerait un autre monde que celui que nous voyons de façon tangible. Et à ce moment-là, forcément, les saints disparaissent comme les lieux auxquels on les vénère.
Oui. Pour le temps qui nous reste, qu'en est-il de la manipulation, domestication, instrumentalisation parfois des pouvoirs politiques en place, d'une part, et d'autre part, de nos jours, avec les moyens techniques, avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a une sorte d'érosion des distances presque le culte devient virtuel et déraciné.
Oui, alors ce sont des évolutions en cours, donc il est difficile de décrire. Pour l'instrumentalisation par les pouvoirs politiques, il est probable que, quelle que soit l'adhésion réelle des dynastes musulmans dans le passé au culte des saints, il y a toujours des choix qui ont été faits. C'est-à-dire qu'on va choisir tel saint plutôt que tel autre, développer tel saint patron plutôt que tel autre. Et puis alors, à l'époque contemporaine, bien sûr, avec la création, en gros, pour résumer, d'États-nations, surtout après la chute de l'Empire ottoman, Là, chaque État-nation doit se doter d'une histoire, finalement, et essaie de trouver dans certains saints, mais pas d'autres, la preuve d'une existence essentielle, enfin, depuis toujours.
Du récit national.
Tout à fait, voilà. C'est ça, un récit national. Mmh. Alors c'est le cas en Turquie, Rumi, voilà, qui devient turc, bon après tout il était persan. C'est le cas en Asie centrale après la fin de l'Union soviétique. Et quant à Internet, alors c'est la question cruciale aujourd'hui, c'est est-ce qu'un culte des saints peut exister à distance et est-ce qu'une figure des saints a un sens quand les gens qui s'y intéresseraient échappent à la culture d'où provient le saint? Ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui.
Et alors, il y a quoi, une coalescence, pour emprunter votre terme de tout à l'heure, où, et c'est évanescent, ou il y a une survivance?
Il y a une survie, plutôt même qu'une survivance, et qui est... Alors, nous y sommes sensibles ici, en Europe, ou en Occident, le fait qu'il y ait ces cultes à distance, et les nouvelles formes que peut prendre le culte, mais il faut quand même... bien garder présent à l'esprit qu'il existe toujours des pèlerinages très très massifs dans le monde musulman. Kerbela, Najaf, ce sont des pèlerinages de
pour
dizaines...
Pour nos amis chiites...
Voilà. La question ne se pose pas. Et c'est le cas aussi en Inde. Hein. Ça reste des pèlerinages extrêmement massifs.
Et les fameux mausam, qui ont quelque chose qui a un lien avec les saisons. Le mausam au Maroc, par exemple.
Alors le Moussem au Maroc, Maoussem au Maroc, c'est-à-dire la fête annuelle du saint, des choses qu'on trouve en Inde, des choses qu'on trouve en Égypte, là, d'abord a besoin d'un soutien financier, on n'en a pas parlé, mais l'économie joue un rôle, a besoin d'un soutien financier, a besoin de temps aussi. Et c'est là qu'en revanche, la civilisation moderne et l'urbanisation massive ne permettent plus... comme avant, de célébrer, pour beaucoup des fidèles, de célébrer ces cultes. Donc même quand il n'y a pas rejet, là, effectivement, l'urbanisation, modernisation des comportements, réduit à des maosim qui vont durer beaucoup moins longtemps, ces grands pèlerinages, qui restent spectaculaires souvent, hein, mais ces grands pèlerinages qui, auparavant, créaient des campements qui duraient des semaines du moins.
Bien, merci infiniment, merci.
C'est moi
merci,
qui vous remercie.
Merci, chère Catherine Maier-Zaouane. Si nous avions un peu plus de temps, nous aurions parlé de ces confréries soufis et la vénération que les fidèles ont pour les maîtres éponymes. Mais c'est fini. Si vous nous promettez de revenir pour en parler davantage,
volontiers.
Vous serez toujours la bienvenue.
Merci beaucoup.
Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam, que vous retrouverez, comme toutes celles de la chaîne d'ailleurs, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchon. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus. Et la réalisation par l'ami François Connac.